Divergence FM.
Hey Jack, va dire à ta pute de me faire des crêpes aux myrtilles et que ça saute.
Divergence FM.
Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir.
Écoutez, j'ai le crossfade qui me démange, alors je
scratch
un petit peu.
C'est pas parce qu'on est blonde qu'on est forcément bête, naïve et stupide. Moi j'ai calculé mon QI et j'ai 14.
Eh bien au moins tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse.
Divergence FM.
Mip, mip.
La radio qu'elle écoute.
Divergence FM.
L'œil le remarque, la main le sent et deux labels le prouvent.
93.9.
Très impressionnant.
Salut à toutes et à tous, Jean-Marc au micro et Bruno et Bertrand donc à la réalisation technique. Le printemps arabe avec donc plusieurs points d'interrogation. L'étincelle du printemps arabe a jailli à Tunis en décembre 2010 avant d'enflammer le Caire. Et désormais le mécontentement gagne les pays arabes l'un après l'autre. Les appels à manifester lancés via Internet se multiplient et la presse du Machrek et du Maghreb n'hésite plus à rendre compte de cette colère. Les conséquences sont connues, à savoir la chute de l'ex-président et dictateur Ben Ali en exil actuellement en Arabie Saoudite et l'éviction donc de Moubarak, le président soi-disant modéré par l'armée égyptienne et sous la pression donc du peuple égyptien. Le premier ministre algérien a annoncé le 16 février donc, que l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans serait levé avant la fin du mois. Malgré cela, des manifestations se sont déroulées en Algérie. 2000 manifestants pour 30 000 policiers pour demander une vraie justice sociale et un renouvellement des dirigeants politiques dans le pays. À Benghazi, en Libye, Kadhafi a été ébranlé. L'opposition libyenne a appelé le 17 février à une journée de colère dans tout le pays pour réclamer le départ du « guide » entre guillemets au pouvoir depuis 1970. Au Yémen, les manifestants ne désarment pas. Les manifestations se succèdent dans le sud pour réclamer la démission du président Salé au pouvoir depuis 32 ans. En Syrie, en Irak, en Jordanie et en Iran, donc pays perse, non arabe bien sûr, pays du Moyen-Orient, dont les choses ne sont pas figées et bougent et continuent à bouger. Et au Maroc, alors plusieurs groupes de jeunes appellent à manifester dans le royaume le 20 février. Alors nombre des éléments déclencheurs de la révolution tunisienne et égyptienne sont aussi présents au Maroc. En réponse à cet appel du 20 février, le ministre de l'Intérieur marocain, qui dit comprendre les aspirations de ces jeunes, et en aucun cas, donc, le ministère de l'Intérieur n'entravera donc la démarche pacifique de ces jeunes. Encore plus, le ministre de la Communication au Maroc s'est mis lui aussi sur YouTube pour entrer donc en contact avec les jeunes, preuve que les gouvernants ont bien étudié et analysé les événements de la révolution égyptienne et tunisienne pour espérer, pourquoi pas, anticiper les événements. Alors, la France n'a rien vu donc à venir en Tunisie et les États-Unis ne soupçonnaient pas non plus ce qui allait se produire en Égypte. Alors, arrivera-t-il donc la même chose dans le reste de l'Afrique, je veux bien dire donc l'Afrique noire. Alors, les événements en Tunisie et en Égypte sont une excellente occasion pour l'Union européenne d'encourager des réformes, des vraies réformes, juste dans ces pays. La meilleure protection pour la sécurité de l'Europe est un monde fait d'États démocratiques bien gouvernés. Alors partager la bonne gouvernance, soutenir les réformes sociales, politiques, lutter contre la corruption et l'abus du pouvoir, instaurer l'état de droit et protéger les droits de l'homme, ce sont là les meilleurs moyens pour renforcer l'ordre international. Alors, pour une prière donc à tous les manifestants et à tous les morts de ces révolutions égyptiennes et tunisiennes, alors une prière laïque, groove, avec un groupe marocain en vogue actuellement, le groupe Mazagan, à vous. Alors, c'est le geste désespéré donc de Mohamed Bouazizi qui a constitué l'étincelle du printemps arabe. Alors, printemps arabe avec plusieurs points d'interrogation. Le Tunisien Mohamed Bouazizi était un chômeur et bachelier. Alors, devenu par la force des choses, jeune vendeur de clémentine à la sauvette, en lutte corps et âme pour sa survie et celle de ses proches. Et c'est par l'immolation de ce jeune garçon de 26 ans à Sidi Bouzid que l'étincelle du printemps arabe a jailli à Tunis en décembre 2010, avant d'enflammer le Caire. Désormais, le mécontentement gagne les pays arabes l'un après l'autre. Alors, Divergence FM a suivi des débats et des manifestations autour de ce printemps arabe à Montpellier. Et puis nous avons donc contacté Talat Al-Sangabi, qui est franco-égyptien, économiste de formation et directeur du Festival des Internationales de la Guitare, pour nous livrer ses analyses sur la révolution égyptienne, ses perspectives et ses répercussions en Europe et dans le bassin méditerranéen. Voici Talat Al-Sangabi sur Divergence FM. Talat Al-Sangabi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la révolution égyptienne, en tant que franco-égyptien, en tant qu'égyptien maintenant, alors quels sont tes sentiments ?
Appelons ça l'insurrection populaire des peuples égyptiens. Parce que la révolution, c'est autre chose. Là, il y a l'insurrection. Le gouvernement de Moubarak, il a tombé vendredi dernier. À la tête de l'État, il y a un coup d'État qui est passé en douceur par l'armée pour sauvegarder... pas l'essentiel, pour sauvegarder la face. Maintenant, c'est une question de temps. Alors, la transition va prendre... Il ne faut pas être pressé. La transition va prendre du temps. En Tunisie, en Égypte, partout, ça va prendre du temps. Mais rien ne sera plus comme avant. Rien. Donc, nous sommes... On peut dire qu'à l'horizon, il y a la démocratie qui s'approche, une démocratie relative, un gouvernement libre, relativement libre, relativement démocratique, relativement... équitable, parce que ce qu'il s'est fait pendant des années, ne se défait pas du jour au lendemain. La démocratie, il fallait 2 siècles pour que c'était bien en France. Bon, laissons au moins 1 an pour le monde arabe pour établir la démocratie.
Alors, la réaction des gouvernants occidentaux, d'abord par rapport à la révolution de Jasmin, et puis c'est par rapport à la révolution donc égyptienne maintenant.
Non, mais c'est-à-dire que ce qui est regrettable, c'est que les grands gouvernements de l'Occident, qu'ils soient de l'Union européenne ou des États-Unis, ils sont à la traîne. Ils sont un peu à la traîne parce qu'ils ont soutenu et ils continuent à soutenir les régimes rétrogrades dans le monde arabe. Ils soutiennent l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, le Oman, la Jordanie. Ils soutiennent Kadhafi, donc ils soutiennent des gouvernements autoritaires rétrogrades au nom des intérêts suprêmes et des intérêts économiques. Tout ça, ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce qu'on peut avoir des rapports d'État à État, mais on ne soutient pas. On sait quoi, c'est tout cet émoi pour les problèmes de la Birmanie. Dans le monde arabe, il y a pire. Et il n'y a pas cet émoi. Pourquoi on fait tout un bataquès pour Binouché? Mais c'est pareil, l'Égypte est dans la Tunisie. Donc, ils sont à la traîne, donc ils sont derrière les événements. Ce qu'ils donnent là aux événements, c'est le peuple. Et ça, c'est partout. Qu'il soit en France, qu'il soit... Personne n'a attendu le bourgeois français en 1789 pour la révolution. Ah non, 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 non. Le peuple, il a fait la révolution après l'élite, elle est arrivée après. Et c'est pareil. Les gouvernements de l'Occident, ils sont à la traîne, ils disent des choses complètement incompréhensibles. Il faut que les transitions se fassent vite, dans la paix, laissons nos journalistes tranquilles. Tout ça, c'est des blablabla. Je crois qu'il faut des positions très claires. Il faut que les chefs de l'État, des pays de Voltaire, des pays de droits de l'homme, dit mais il n'a aucune légitimité pour nous et refuse de traiter avec son ambassadeur. C'est clair. Il faut qu'il soit assez clair. Mais quand on voit Mme Ali qu'il voyage sur les avions de la famille Ben Ali, ça va, c'est la messie.
Talat, tu connais donc un peu l'Égypte, tes contacts donc en Égypte. Alors comment tu vois l'issue au moins proche de cette révolution en Égypte?
L'issue est complexe. Il y aura la transition. Il ne peut se faire que le sentiment de l'armée. Donc l'armée égyptienne, il y aura un rôle. Il sera obligé de remplir ce rôle parce que sinon il perd son pouvoir. Bon, donc pour sauvegarder un de son pouvoir, il va participer. Il faut tenir compte de tout et les centres laïcs, c'est-à-dire des partis comme le Wafd, comme les Nassiriens, comme les laïcs du Nour, comme les partis de travail, comme les rassemblements progressistes, etc., etc. Donc eux, ils ont un rôle aussi. Et après, les frères musulmans, ils ont un rôle. Les frères musulmans ont fait l'éventail de l'islamisme en Égypte. Les frères musulmans, s'il y a une élection libre aujourd'hui, ils auront 30%, pas plus. Parce qu'en Égypte, il y a une grande tradition de pluralisme. Il y a une grande tradition de démocratie qui est arrêtée simplement en 1952. C'est-à-dire qu'il y a 49 ans. Bon, il y a 49 ans, la démocratie est arrêtée en Égypte avec l'arrivée de Nasser. Mais depuis quelques années, il y a une époque de pluralisme en Égypte. Et cette époque de pluralisme fait de sorte que la transition, ce sera une transition vers, graduellement et doucement, vers une démocratie du pluralisme d'abord, liberté de la presse, liberté des opinions, liberté de la parole. Et après, la démocratie, c'est difficile. La démocratie, elle a deux faces. Vous voyez, la démocratie, elle a amené Berlusconi en Italie. La démocratie en Allemagne, elle avait amené Hitler, elle avait amené Mussolini. Donc la démocratie, elle a une double face. Donc doucement, ça va arriver, les transitions, il y a des forces politiques, l'Égypte, ce n'est pas le chaos, c'est un mouvement insurrectionnel afin que cet homme et son régime partent, et maintenant on construit. Et des forces et des relèves pour construire, il y en a.
Et pacte de cette révolution donc sur le monde arabe, puis le problème israélo-palestinien.
Moi je pense au monde arabe actuellement, il équivaut sans problème la chute de la mur de Berlin. Parce que le monde arabe, c'est le contour fort de l'Europe occidentale au sud. C'est-à-dire, c'est la porte de l'Afrique, c'est la porte de l'Asie aussi. Ça, c'est d'une part. Ce qui se passe au monde arabe, ça va résoudre en grande partie le problème du djihadisme islamique. C'est-à-dire que l'islam radical, l'islam désespéré. C'est très important de savoir les enjeux économiques du point de vue pétrole, du point de vue des capitaux, etc. C'est extrêmement important. Les enjeux stratégiques pour les États-Unis et l'Occident sont très importants. Les cartes, elles sont complètement différentes pour le problème palestino-israélien. Le peuple palestinien, il a le droit d'avoir dans la terre de Palestine. On ne peut pas continuer à avoir les mascarades qui sont en train de passer, les pires du colonialisme qui sont en train de faire des choses inimaginables. C'est un pays démocratique, certes, pour ses citoyens israéliens, mais pour une catégorie de ses citoyens, c'est-à-dire les Israéliens arabes, il y a une pratique de quelque chose qui ressemble à l'apartheid. Impossible qu'on ait une forme de colonialisme, de peuplement. Impossible.
Ton dernier mot donc pour l'Égypte?
Grand espoir. Grand espoir pour l'Égypte, pour le monde arabe. C'est le printemps des peuples arabes actuellement.
Merci Talat, au nom de Divergence.
Je vous en prie.
Alors, sur la position de l'Union européenne, nous avons donc enregistré les extraits lors d'une conférence de Jean-Marie Miossec, qui est géographe et spécialiste du monde arabe à Montpellier, et voilà ce qu'il pense.
Alors moi, j'ai été évidemment assez traumatisé par l'absence de prise de position de l'Union européenne et de l'Europe en général. Je ne parle pas de la France, hein, qui est hyper contre-productive à l'intérieur même de tous les pays européens. Donc c'est même pas la peine d'aller beaucoup plus loin pour notre pays. Mais au niveau de l'Union européenne, Mohamed Ouazizi s'est immolé le 17 décembre et il a fallu attendre le 17 janvier pour que Mme Ashton, qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, intervienne. Un mois. Et ce qu'elle a dit, elle a dit que l'Union européenne allait fournir une assistance immédiate afin de préparer et d'organiser le processus électoral, ainsi qu'un soutien à une véritable transition démocratique. Or, tout ça, c'est du ressort exclusif des Tunisiens. Ce n'est pas du ressort de l'Union européenne d'organiser les élections en Tunisie ou d'organiser les élections dans n'importe quel pays arabe ou dans n'importe quel pays étranger. C'est ça ce qu'elle a dit le 17 janvier 2011 avec le conseiller Stéphane Fulleux. Le commissaire Stéphane Fulleux, ils ont fait un communiqué commun.
Alors, sur la position donc des intellectuels français, entre guillemets, hein, le quarteron donc qui monopolise les médias en France, alors aucun mot sur les révolutions en Égypte et en Tunisie. Alors voilà ce que pense donc Jean-Marie Miossec.
Alors l'autre élément qui est aussi important et qui est quand même assourdissant, c'est l'absence d'intervention d'intellectuels. Les intellectuels, ils sont prêts à s'enflammer, à dire n'importe quoi, dès qu'il y a quelqu'un qui est menacé dans un pays, et ils ont tout à fait raison pour les droits de l'homme, etc. On les voit monter au créneau. Hein. En France, il y a un quarteron de individus qui, généralement, monte au créneau chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, même s'ils connaissent rien du tout. On n'entend rien. On n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas, sauf pour revenir toujours sur les sempiternels problèmes. Premièrement, si la démocratie se met en place et que les régimes autoritaires sautent, il ne va plus y avoir la parade vis-à-vis de l'islamisme. Alors ça, c'est la grande inquiétude, c'est l'éternel débat, c'est l'éternel problème. On ne peut pas avoir de démocratie parce qu'il faut des régimes forts pour faire barrage, bouclier contre l'islamisme. Deuxième élément, bien évidemment, si les régimes forts qui sont contrôlés par les Américains sautent, eh bien, l'équilibre entre guillemets au Proche-Orient, l'équilibre en faveur de certains, bien évidemment, eh bien, il risque d'être légèrement modifié. Alors ça, c'est aussi extrêmement dangereux. C'est les deux points sur lesquels on a entendu des interventions. Mais sinon, au lieu d'avoir des interventions pour dire « on supporte un peuple qui est en train de briser ses chaînes, on aide les populations qui sont en train de monter au créneau », eh bien, ça, on l'a pas entendu, on n'a pas eu les mots du cœur qui devaient sortir. On l'a pas vu de la part de tous les hommes politiques européens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs options politiques. Et ça, c'est quand même catastrophique. Ça témoigne bien d'un vieillissement, d'un déclin, d'un effacement progressif d'un continent qui est malade de sa xénophobie. Et ce qui est tout l'inverse de l'identité des Européens, qui au contraire sont des hommes révoltés et devraient être la main dans la main avec les gens qui sont en train de briser leur chaîne.
Voilà donc cette petite émission donc concernant le printemps arabe est terminée. Alors merci et à un prochain rendez-vous.